Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec HULTEF Corporate Education, dont l'ambition est d'accompagner et de former les professionnels dans le développement des compétences indispensables au monde de demain. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. Travailler 4 jours par semaine sans perdre en salaire, ça vous tente ? Être de repos 3 jours sur 7, c'est aujourd'hui possible grâce à la semaine de 4 jours. Crise économique, chômage, vague de licenciements, les dernières années ont été source de questionnements sur le temps de travail idéal à appliquer en entreprise. Si certains prônent encore le « travailler plus pour gagner plus », d'autres militent pour une réduction du temps de travail. C'est le cas de certains de nos pays voisins, Espagne et Royaume-Uni notamment, qui l'ont expérimenté avec beaucoup de succès, tout comme Microsoft qui, au Japon, a directement augmenté sa productivité de 40% en se basant sur ce modèle. À la question de savoir si la semaine de 4 jours est une réelle opportunité pour les salariés comme pour les chefs d'entreprise, on a souhaité, avec HULTEF Corporate Education, échanger avec Thomas Laboret, expert et co-auteur d'un ouvrage passionnant sur le sujet. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume.
Je suis super content de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode de podcast consacré à un sujet qui me plaît tout particulièrement, et je pense d'ailleurs qu'il plaît à pas mal de gens, c'est le sujet de la semaine de 4 jours. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, on n'entend parler que de ça. En tout cas, moi perso, il ne se passe pas une semaine sans que j'entende parler de semaine de 4 jours. Mais avant toute chose, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs, Thomas ?
Très volontiers, bonjour à tous, merci de votre confiance. Mon nom est Thomas Laboret, je dirige un cabinet de conseil qui s'appelle Blooming Partners, qui fait de l'innovation managériale. Et je viens de co-publier avec un de nos partenaires et complices habituels la première étude francophone sur la semaine de 4 jours, que voici, qui va donc alimenter très largement nos discussions avec le camarade Guillaume.
Alors moi j'ai vu le livre à l'écran, hein, mais n'hésitez pas à chercher sur Google, effectivement le livre est disponible. On va parler des enseignements de ce bouquin, mais on va même parler plus largement de ce sujet de la semaine de 4 jours. J'avoue que j'ai bien envie de te taquiner un peu sur le sujet, Thomas, je profite d'avoir un expert de renom comme toi pour en discuter. Alors la semaine de 4 jours, en quoi ça consiste en gros ?
Eh ben, faut pas raisonner semaine de 4 jours en fait, parce que ça risque de nous entraîner sur la pente savonneuse du qu'est-ce qu'on fait le cinquième jour, et est-ce qu'il faut bosser plus les 4 autres jours, et est-ce que ça veut dire que le vendredi devient férié ? En fait, il faut plutôt le voir comme 47 jours de congés supplémentaires par an pour la quasi-totalité des salariés en France.
Ok, alors pourquoi on en parle beaucoup en ce moment ? En quoi c'est considéré comme une solution novatrice en matière d'organisation du travail ?
Parce qu'il s'est passé pas mal de choses depuis le début des années 2010 ou la fin des années 2000. Les évolutions de la société, les évolutions de la géopolitique se sont un peu multipliées et précipitées. Elles ont été largement accélérées, en tout cas dans leur diffusion, par la révolution numérique aussi. Donc les technologies ont aussi joué leur rôle. Et pas mal de gens se sont posé la question du rapport au travail, en disant finalement, travailler, pourquoi pas, mais peut-être que on peut se poser la question de pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour le collectif ? Est-ce qu'on travaille pour soi ? Est-ce qu'on travaille pour ses collègues ? Est-ce qu'on travaille pour ses clients ? Est-ce qu'on travaille pour ses actionnaires ? Et toutes ces questions sont devenues particulièrement aiguës pendant le Covid. Parce que du jour au lendemain, on s'est vu tous obligés de travailler de chez nous, donc dans des conditions qui n'étaient pas prévues pour au départ, avec parfois des inquiétudes sur est-ce que je vais pouvoir travailler tout court ? Est-ce que va pas y avoir une crise économique épouvantable ? Est-ce que mon poste va pas disparaître ? Bon, les derniers développements technologiques, là encore, l'intelligence artificielle prédictive, etc., nous amènent à des questions de est-ce que mon job ne va pas disparaître ? Donc les gens se posent des questions sur le travail. Et aujourd'hui, on voit que dans cette question de rapport au travail, il y a un peu deux cultures qui s'affrontent. D'un côté, une culture qui dit « Oh là là, mais l'économie, c'est fragile, il se passe plein de choses, il faut travailler plus, il faut faire plus d'études, travailler plus longtemps, être moins longtemps à la retraite, on vit de plus en plus longtemps, il faut que tout ça soit productif. » Et puis d'autre côté, des gens qui disent « Oui, mais la quantité de travail ne suffit pas, le problème, c'est la qualité du travail. » De plus en plus, on est revenu à un mode quasiment taylorien de travail où on est haché entre une tonne de micro-tâches dont on comprend pas toujours à quoi elles servent à qui. Et qui ne, en tout cas ne nous donne pas satisfaction, et ça nous épuise, et on le voit, la conflictualité au travail augmente, le sentiment d'épuisement, les burn-out, etc., notamment pour des postes de type middle management. Donc les gens cherchent, quand je dis les gens, c'est les pouvoirs publics, c'est les managers, c'est les managers, c'est les organisations syndicales, c'est les professionnels du management, tels que nous, on cherche, on regarde, on fait des expérimentations. Et là, les entreprises qui se sont dit « allez, je me lance dans la semaine de 4 jours, on verra bien ce qui en sort », bah, ce qui nous a frappé, c'est que très majoritairement, elles disent « je suis extrêmement satisfait », et quand je dis les entreprises, c'est et les employeurs et les employés. Ils nous disent majoritairement, quand je dis majoritairement, c'est plus de 90%, « je suis extrêmement satisfait », « je suis plus satisfait que ce à quoi je m'attendais ». Donc c'est là qu'on se dit « oups, il y a peut-être quelque chose à regarder ».
Et qu'est-ce qui les a motivés, justement, ces entreprises, à se lancer dans la semaine de 4 jours? Parce que je t'avoue que moi, je rencontre régulièrement des DRH, des patrons qui me disent « waouh, mais semaine de 4 jours, c'est un gros mot, en fait, pour ces patrons ». Comment on peut les convaincre? Parce que certes, on a des exemples, hein, je pense à des entreprises comme Welcome to the Jungle, comme Iprema, comme Love Radius, des entreprises que j'avais d'ailleurs interrogées dans le cadre d'une interview, et c'est vrai qu'elles sont hyper satisfaites, en fait, de ce schéma-là, et les salariés le sont aussi. Comment est-ce qu'on peut convaincre des patrons réticents justement à employer cette semaine de 4 jours?
Le premier argument, je pense, c'est de leur dire que ça n'est pas une mesurette pour que ces glandeurs de la Gen Y acceptent enfin de venir bosser. Parce que c'est souvent présenté comme ça, et ce n'est pas ça du tout, en fait. Et ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin pour aller bosser. Non, ce qu'il faut leur dire, c'est extrêmement rentable pour l'entreprise. C'est à zéro investissement économique. Il y a un peu d'investissement en temps des collaborateurs, mais à zéro investissement économique, c'est un véritable levier de croissance. Ça, c'est la première chose. Donc attention, ce n'est pas une mesure woke ou je ne sais pas quoi. C'est très capitaliste, en fait.
Okay. Et la deuxième chose, c'est-à-dire que tu réduis le temps de travail et tu augmentes la productivité mécaniquement.
C'est ça.
C'est ça, en fait, qui est peut-être un peu difficile à concevoir.
C'est ça qui est difficile à comprendre. Parce qu'on a tendance à raisonner sur la base des expérimentations antérieures concernant le temps de travail, et notamment les fameuses 35 heures. Il y a des gens qui se posent la question de « est-ce que ça a réellement créé de l'emploi ?» Il y a des gens, par exemple, dans l'hôpital, qui disent « ça a en tout cas largement détruit les conditions de travail, l'attractivité du métier et la qualité des relations et des soins avec les patients. » Donc, forcément, les gens se disent « oh là là, qu'est-ce qu'ils vont encore faire ?» Ils vont encore réguler, une bande de technocrates dans un bureau va réguler à quelle heure on arrive, à quelle heure on part, qu'est-ce qu'on fait, pendant combien de temps on se lave les mains. Or, ce n'est pas ça du tout la semaine de 4 jours. Les entreprises qui ont réussi et qui sont satisfaites se disent « bon, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit à mes salariés, on voit bien que aujourd'hui, et ça ne fait que s'aggraver, le Covid a été un moment d'aggravation, mais c'est plus large que ça. On voit bien qu'avec le numérique, on passe son temps à hacher notre temps. Je suis en réunion, ah oui, mais là, pardon, j'ai une alerte, il faut que je traite. Et puis alors, ah oui, mais non, alors ça, c'est pas une alerte professionnelle, c'est une alerte de mes enfants parce qu'à l'école, il se passe quelque chose. Et puis à Flûte, j'ai un rendez-vous de médecin. Ah oui, puis alors, attends, il y a mon asso aussi qui se réunit ce soir et j'avais dit que j'apportais les croissants. On est en permanence interrompu par une interpénétration d'obligations professionnelles, associatives, politiques, religieuses, de loisirs, de famille, médicales.
Ouais, on a une journée qui est ultra fractionnée, en fait.
Donc moi, chef d'entreprise, ce que je vous dis, c'est les gars, on va se débrouiller pour vous filer à tous, mais pas forcément le même pour tous, un jour ouvrable chaque semaine où vous faites tous les autres trucs. En contrepartie, j'attends que quand vous êtes les 4 jours où vous êtes vraiment en train de bosser pour moi, vous faites que bosser pour moi, s'il vous plaît. Alors du coup, comment on va faire pour arriver à ça? Moi, patron, je vais pas vous dire comment faire parce que je vais vous dire des bêtises, je vais vous dire comment je ferai à votre place et je suis pas à votre place. Mais vous, je vous fais confiance. Je sais que vous avez plein d'idées sur comment ça se passe sur votre poste de travail au quotidien. Alors, dites-moi comment faire pour que, en 4 jours, vous en fassiez au moins autant qu'aujourd'hui en 5. D'ailleurs, on va contractualiser, et c'est ça la clé, on va contractualiser. Je veux que, à l'issue de cette expérimentation, la productivité est augmentée, la satisfaction client est augmentée, l'absentéisme, je veux qu'il soit quasiment éradiqué. Alors, il y aura toujours l'accident, tu vois, la route est bouchée, je me suis cassé la figure, je ne vous le souhaite pas.
Oui, tu as toujours des aléas, en fait, à 4 ou 5 jours.
Mais des aléas. Ouais. Mais qui est plus le j'en sors plus, je pose un jour de congé maladie pour en fait bosser, mais voilà, mais que ça passe. Ça, j'en veux plus. Et je vous liste comme ça 4 ou 5 indicateurs. Et je veux que ces indicateurs progressent à la fin de l'expérimentation. Maintenant, vous vous débrouillez, vous êtes grand. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, les gens à qui on dit « j'ai confiance en toi, je sais que tu n'es pas un tir au flanc, je sais que tes conditions de travail sont améliorables, elles le sont toujours, et qui mieux que toi peut les améliorer ?» Les gens à qui on dit ça, et en contrepartie, donc tu as ce jour ouvrable hebdomadaire pour vivre ta vie, littéralement. Donc, je ne te paye pas moins, je ne te paye pas plus, mais tu as un jour de vie par semaine en plus. Et moi, ça ne m'a rien coûté puisque je ne te paye pas plus.
De vie privée, de vie perso. Parce que la vie professionnelle, ça reste quand même la vie.
Mais ça peut être aussi enfin, la vie professionnelle. Il y a des gens qui en profitent pour, à titre bénévole ou rémunéré, pour donner des cours, reprendre des études, faire des petits travaux, accompagner des personnes en situation de dépendance, etc. etc. Donc ça peut être aussi un engagement à agir et pas simplement au repos. Et ça c'est vraiment intéressant parce que ça m'amène à une autre remarque qui est que les entreprises qui ont réussi se sont aussi aperçues que ça ne réussissait que par le collectif. Je veux dire par là que par opposition à des dispositifs comme le télétravail, comme les RTT, etc., où chacun se dit, moi, ça m'arrange le mercredi pour mes enfants, le lundi pour mon club de je sais pas quoi, là, les gens sont obligés de se dire, moi, je suis pas là le lundi. Mais loulou, le lundi, c'est le jour où on reçoit les commandes et il y a que toi qui as la relation avec les fournisseurs. Si t'es pas là le lundi, tu nous plantes. Donc, comment on fait? Tu peux pas prendre le mardi plutôt? Ou alors tu prends un lundi
sur deux. Donc, t'es obligé de raisonner équipe, quoi, en fait. Lundi, sinon, tu plantes l'entreprise.
Et comme il faut pas que l'entreprise se plante, parce que sinon, la productivité, la satisfaction client, le machin, on les aura pas. Donc, le patron, il va dire, c'est bon, fin de la récré, on revient à 5 jours. On est obligé de raisonner équipe. Et on est obligé de dire, attends, comment j'optimise, comment je trouve l'optimum entre l'efficacité de l'équipe et mon organisation personnelle. Donc, on va devoir se confier aux autres, dire « Ouais, mais moi, le lundi, ça ne m'arrange pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» D'accord, alors pas au-delà de 17h. Et les gens vont devoir, comme ça, se faire confiance mutuellement. Donc, ça joue aussi sur la conflictualité au travail, etc. Le patron fait confiance aux employés. Les employés se font confiance mutuellement. Ils font confiance au patron. Et on bâtit un collectif qui, ensemble, va trouver les myriades de mini-optimisations qui font que, oui, on se prend régulièrement du… Quand je dis augmentation de productivité, ce n'est pas plus 5%. C'est plus 30, plus 40. C'est significatif.
Ok. Ah oui, d'accord. J'avais vu, je crois qu'il y avait une expérimentation de Microsoft au Japon, il me semble, avec une énorme augmentation de la productivité qui était de l'ordre de 40 à 50%. Il me semble que c'était il y a 2 ans. Je crois que l'Espagne aussi expérimente, même actuellement, la Belgique aussi, nos pays voisins, expérimentent la semaine de 4 jours.
Le Royaume-Uni a sorti en février une étude très intéressante sur quelques centaines d'entreprises. Ils l'ont sorti quand on finissait la nôtre. Donc, on n'a pas pu dupliquer leur protocole expérimental, mais on s'est inspiré de leurs conclusions pour alimenter les nôtres, pour les mettre à l'épreuve. Tiens, comment ça marche en France? Il y a un tout petit biais dans notre étude. Tu parlais du Japon. On est quand même basiquement sur une philosophie du travail très européenne. Les Américains ont un rapport au travail un peu différent, les Asiatiques ont un rapport au travail un peu différent. Je ne parle pas d'autres géographies, Amérique latine, Afrique, etc., ou même Europe de l'Est. Mais en Europe, enfin, notre tropisme est très Europe occidentale. Il faudrait sans doute décliner cette étude, mais nous, on n'a pas entrepris de le faire dans ces autres cultures, parce que les leviers sont probablement légèrement différents de ceux que je viens de résumer rapidement.
Oui. Donc, il y a des particularités. On ne met pas en place la semaine de 4 jours de la même manière aux US, au Japon qu'en France, par exemple. Alors, tu parlais de la confiance. Moi, je comprends. Hein, je commence à cerner un petit peu ton discours, justement, sur la création d'un lien de confiance entre l'employeur et les salariés et entre les salariés eux-mêmes. Pour autant, est-ce qu'il y a des fonctions, des jobs, en gros, au sein de l'entreprise qui ne sont pas compatibles avec la semaine de 4 jours? Parce que moi, la semaine de 4 jours, je l'entends bien pour des métiers qui peuvent être un peu techniques, un peu redondants jour après jour. Mais par exemple, sur des fonctions administratives, quand par exemple, on gère des contrats, toutes ces fonctions administratives, si la personne n'est pas à son bureau, qu'elle ne travaille pas, par exemple, le jeudi, alors qu'on a besoin d'elle, comment est-ce qu'on fait?
Alors, c'est super intéressant parce que nous, on est arrivé avec beaucoup de réticence sur cette étude. Ce qui nous a motivés à la faire, c'est qu'on a vu qu'autour de nous, plein de copains entrepreneurs s'y mettaient. Et on leur a demandé pourquoi. Et ils ont répondu comme je te l'ai dit. Et comme on a vu que ça se multipliait et qu'ils ne revenaient pas en arrière, on s'est dit, doit y avoir quelque chose. Mais on était plutôt tiède sur le sujet. Et effectivement, ça va pas être possible pour tous les grades, ça va pas être possible pour toutes les anciennetés, pour tous les secteurs, etc. Oui. Et en vrai, on a trouvé assez peu d'exceptions, et à chaque fois, c'était des exceptions plutôt individuelles. C'était « ouais, mais moi, je suis tellement près de la retraite, si vous me perturbez encore mon rythme de travail, mon temps d'adaptation va être plus long que le temps que je vais encore passer dans l'entreprise. Pendant ce temps-là, je vais être inefficace et je vais embêter tout le monde. Je vais être le boulet qui tire les gens vers le bas. Ça, c'est... Puis ça va être très désagréable pour moi, évidemment. Donc, on n'a pas intérêt à fonctionner comme ça, vous êtes d'accord. Il y a des gens qui disent, mais moi, notamment les gens en début de carrière, pareil. Les gens en début de carrière disent, ah, mais pas du tout. Mais, j'ai pas... mais moi, si je pouvais bosser mais 7 jours par semaine, je suis célibataire. Je veux être sollicité intellectuellement, je veux apprendre.
Oui, moi, j'ai pas envie d'être chez moi sur mon canapé.
Faites-moi bosser, quoi. Je veux apprendre.
Ouais. Wow. Encore une fois, ils ont quand même la possibilité de travailler à côté. En tout cas, si l'entreprise leur offre cette possibilité.
Et c'est d'ailleurs un des arguments qu'on peut leur sortir. Mais au début, les populations proches de la retraite ou qui viennent d'arriver sont souvent les deux moins enthousiastes en disant mais à quoi ça sert ? Il y a des gens qui disent attends. Dans l'entreprise, il y a déjà, notamment chez certains acteurs en région, plutôt proche du public, enfin du secteur public, etc., de l'administration, ils disent, attends, on a 12 000 dispositifs, on a un crédit épargne-temps, on a des machins, on a des jours de bénévolat, on a plein de trucs. Aujourd'hui, pour arriver à caser son emploi du temps, et là aussi, ne pas dégrader l'organisation collective en étant le mec qui n'est jamais là, c'est un peu un casse-tête. Tu ajoutes une dimension de complexité à ce dispositif. Attends, on devient dingue, arrête, ça ne sert à rien. On n'est pas demandeur. Il y a eu des cas comme ça. C'est vrai que les chefs d'entreprise, tels que moi, où il y a un moment où tout ce qu'on fait, même aller dîner avec des potes, à un moment, c'est professionnel parce qu'on va toujours discuter de « Ah, tu connais quelqu'un qui est sur ce contrat-là, super, il faut que tu me le présentes. » Donc, on est un peu tout le temps en train de bosser. La porosité, c'est malsain d'ailleurs. Mes collègues essaient de m'aider à lutter contre.
Je te comprends à 100%.
Et puis tous les unipersonnels, les gens qui sont artistes, qui sont peut-être comme toi journalistes, les gens qui sont leur propre entreprise et leur propre outil de travail, il y a un moment où c'est leur vie, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sinon,
quand tu as un métier passion, ouais, c'est sûr que tu en parles tout le temps.
Bah oui, tu en rêves la nuit. Quoi. Bon, il faut faire attention au burn-out, mais ça se gère dans un autre registre, justement parce que ça n'est pas un registre collectif. On n'a pas vu de métier ou de secteur ou de grade pour lequel ce soit structurellement impossible. On a toujours des exemples de gens qui ont réussi et qui ont réussi par ingéniosité et par intelligence collective. Donc, c'était pas une façon de rentrer au chausse-pied, si tu veux, dans un modèle. Les gens ont inventé un modèle qui marche. Ou bien, ils ont lâché l'affaire et ne s'en portent pas mal. Mais à nouveau, on est sur du plus de 90% de « on a réussi ».
Oui, parmi les entreprises qui l'ont expérimenté. D'ailleurs, est-ce qu'on a une statistique de savoir combien d'entreprises à peu près ont expérimenté ou expérimentent actuellement ?
Très peu. En France, on est à 10-20% d'entreprises qui ont essayé, sont en train d'essayer. Tu disais qu'on en parle en permanence. Ouais. Ça les motive.
Ça me semble pas mal quand même. Je t'avoue que je m'attendais à moins.
Ouais, mais alors aussi parce que nous, on a lancé l'étude en juillet 2022. Donc, ça fait plus d'un an qu'on y est, et on y est parce qu'on a détecté que ça frémissait. Donc, en fait, ça fait plusieurs années qu'il y a eu des pionniers qui ont défriché ce terrain-là. Donc, si, sur le cumul du temps, c'est pas étonnant qu'il y ait autant de monde. Et nous, on estime qu'à terme, alors que le télétravail, tu vois, ne concernera jamais plus de 30% des postes, etc., on estime que ça, à terme, ouais, ça peut concerner 80% des emplois salariés en France. Ouais.
Quand tu dis à terme, du coup, ce serait à quel horizon ? Est-ce que c'est à 5, 10 ans ?
C'est sans doute moins que ça. Ça va dépendre des entreprises. Ça peut être à 3 ans. Ça va dépendre de l'attitude des pouvoirs publics. Le gouvernement nous concocte une loi travail pour la rentrée, là. Nous, on est un peu partagés. Il y a des personnalités politiques de premier plan qui sont très favorables à la semaine de 4 jours, et tant mieux. Nous, on se pose la question parce que justement, les gens ont été un peu échaudés par les 35 heures. Je suis pas sûr que le vecteur législatif ou réglementaire soit prioritaire. À un moment, il faudra bien s'assurer qu'il n'y a pas de débordement, s'assurer qu'il n'y a pas d'exploitation, s'assurer qu'il n'y a pas de violation implicite du droit du travail. Sur le papier, ça ne se voit pas, mais enfin, il y a peut-être quelques inspecteurs du travail qui vont dire « Attendez, c'est quand même bizarre dans cette entreprise ». Bon, donc, ça me gêne pas qu'à un moment, l'État
vienne jouer
son rôle de chef d'orchestre et dise « Attendez, je regarde un peu quand même ». Par contre, je ne suis pas sûr qu'une loi, parce que par définition, une loi, c'est généralisant, puisse refléter l'extrême multiplicité de petits cas particuliers très malins qu'on a trouvés.
Oui, parce qu'il y a peut-être plusieurs cas d'application de la semaine de 4 jours. Tu as la semaine de 4 jours dans laquelle tu travailles, par exemple, bon, je caricature, mais du lundi au jeudi, en travaillant 48 minutes de plus par jour et ton vendredi est libre. Mais j'imagine qu'il y a d'autres cas un peu spécifiques.
Oui, c'est le cas le plus simple, de dire on ferme le vendredi. Et parfois, d'ailleurs, on a trouvé suffisamment de vecteurs de productivité pour ne pas devoir travailler plus les quatre autres jours.
T'as même des boîtes qui continuent à tourner sur 5 jours et qui embauchent du coup, qui forment et qui embauchent de nouvelles personnes.
Très peu. Ça aussi, il y a des gens qui disent « Ah ben c'est super, ça va être un vecteur pour l'emploi ». Pas tellement, parce que justement dans le deal employeur-employé qu'on a vu, c'est plutôt « Vous n'augmentez pas mes charges, mais vous augmentez ma rentabilité et en contrepartie, je vous laisse ne pas travailler un jour. » Tac, tac. Mais d'accord. Donc on n'est pas sur… Okay. Forcément, ma masse salariale va augmenter si je recrute. Or, ce n'est pas le but. On voit des effets indirects de recrutement. Par exemple, j'ai une espèce de salon de coiffure avec 3-4 employés. Comme tu le disais, comment on fait quand celui qui sait faire les couleurs, il n'est pas là aujourd'hui ? Bon, du coup, on ferme ce jour-là, mais on ne va pas fermer ce jour-là. Donc, on va faire autre chose. On va faire des ongles. Où on va faire je ne sais pas quoi qu'on ne savait pas
on
faire.
On va se diversifier.
Donc, pour avoir cette compétence-là, là, peut-être qu'on va recruter. On va prendre des apprentis. Ou le savoir-faire, tu es la seule personne qui sait faire des couleurs. Ce talent que tu es seul à avoir, partage-le avec quelqu'un d'autre qui te servira de doublure les jours où tu n'es pas là. Donc, on aura une période de transition où on est encore à 5 jours et puis à 4 jours et demi et puis on passe à 4 jours, enfin, sur un temps un peu long, 6 mois, 1 an. Mais pendant ce temps-là, pouf, on aura trouvé une substitution. Donc, tu vois, il y a des cas comme ça. Et à terme, alors, on n'est pas économiste, on n'est pas démographe et on n'a pas voulu sortir de notre domaine d'excellence qui est le management des entreprises. Mais on se dit, à terme, si finalement la quasi-totalité des Français travaillent 4 jours sur 7, et n'importe quel 4 jours sur les 7 d'ailleurs, est-ce que le fait que les spectacles, ce soit que le soir ou le week-end, parce qu'il n'y a que là qu'on a le temps, les activités avec les enfants, c'est que le mercredi et le week-end, et les administrations, c'est du lundi au vendredi de 9h à 17h, est-ce que cette contrainte-là reste ? Pas forcément. Tous les métiers ont des horaires d'ouverture étendus, mais toujours avec des gens qui ne travaillent individuellement que 4 jours, peut-être qu'il va falloir recruter pour que tout soit ouvert tout le temps. Et donc, on va ouvrir plus de postes pour plus de gens qui travaillent 4 jours, mais pas les mêmes 4 jours que les autres. Et donc, pour finir de te répondre, oui, il y a le « je ferme le vendredi », il y a le « moi, je suis pas là le lundi, toi, t'es pas là le mardi, lui, il est pas là le mercredi, touc, 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 touc ». Il y a le « chaque vendredi soir, on fait le planning de la semaine suivante, et alors moi, je serai pas là lundi matin, et je serai pas là mercredi après-midi, et je serai pas là machin ». Il faut éviter les demi-journées. Si tu veux, on y reviendra par la suite, mais il vaut mieux que ce soit segmenté jour je bosse, jour je bosse pas. Ouais. Mais bref, un planning extrêmement évolutif en fonction de ce qui se passe. On a vu des gens qui disent, attendez, moi je fais du chocolat. Donc moi c'est clair, je travaille à Pâques et à Noël, et le reste du temps c'est un peu plus calme. Alors c'est pas vrai, il y a gérer des approvisionnements, gérer des contrats, etc. Mais
le chocolat c'est toute l'année. Je veux juste une petite, pardon, désolé. Non, mais tu me parles de chocolat, je suis obligé de rebondir.
Tu as raison, le chocolat c'est important. Mais des métiers comme ça extraordinairement saisonniers avec une saisonnalité qui est inéluctable, qui est annuelle, qui est connue, qui ne changera pas. Là, ça va être les gens, pardon, mais ça va être peut-être plutôt la semaine de 6 jours pendant ces périodes très chargées qui durent 3 semaines, 1 mois à chaque fois. Puis on va peut-être être sur une semaine de 3 jours tout le reste de l'année.
D'accord, tu vas pouvoir lisser ça sur l'année.
Ouais, c'est ça. Et donc, ces dispositifs, alors, il faut à chaque fois respecter malgré tout le code du travail qui dit, attendez, il y a des périodes de repos obligatoires entre deux périodes de travail, on ne peut pas travailler sans interruption plus d'un certain nombre d'heures, etc., etc. Et là, les boîtes, ils font attention, travaillent avec des avocats en droit du travail, etc., et avec l'inspection du travail, bien sûr. Mais voilà, je t'ai listé 4-5 grands dispositifs, sachant que les modalités qui permettent de respecter ces dispositifs vont être extrêmement variables d'une entreprise à l'autre. Elles vont aller jusqu'à la configuration des locaux de travail, l'organisation entre présentiel et télétravail, l'équipement des collaborateurs en outils numériques, pour justement ne pas se tromper sur « et toi, t'es là quel jour ?» etc., etc. On a vu des gens qui disaient « attends, nous, le problème, c'est d'aller faire le plein d'essence parce qu'il n'y a pas de pompe à essence proche du siège. » Donc, est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'on fasse évoluer le siège, y compris en termes de sécurité incendie, d'autorisation, etc., pour stocker du carburant dans les locaux ? Donc, ça semble des choses idiotes, d'organisation bête, tu vois. Mais en vrai, c'est ça qui libère 20 minutes par-ci, multiplié par le nombre de collaborateurs, une heure par-là, multiplié par le nombre de semaines. Et oui, on les trouve, les 30% de productivité et la journée libérable pour tous.
Ouais, tu as une énorme anticipation quand même à prévoir. Du coup, est-ce que tu aurais une checklist, un peu comme si tu partais en voyage, tu vois, ce qu'il faut mettre dans ta valise ? Bon, je suis patron aujourd'hui, à quoi il faut que je réfléchisse ? Quelle est la checklist justement d'une bonne mise en place de la semaine de 4 jours? Franchement, c'est une question qui n'est pas évidente, hein, je te l'accorde.
La première chose, c'est te poser la question de ta motivation et de celle de ton comité directeur, ton comité exécutif, enfin les gens qui font la gouvernance de la boîte avec toi. Pourquoi on veut ça? On veut ça parce que c'est trendy, on veut ça parce que on va être les premiers de notre secteur à le faire, coco, donc en termes d'attractivité de notre marque employeur, ça va être génial. Pendant les 6 mois, ouais, on sera les seuls à le faire. Bon.
Oui, ouais, si on communique dessus, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des boîtes qui peuvent appliquer ça, mais derrière, voilà. Marque employeur, il faut communiquer.
C'est quoi la motivation? Si c'est une motivation court-termiste, ça ne va pas fonctionner. Ouais. Voilà, comme tu dis, de coup de com', etc. Ça ne va pas fonctionner parce que c'est un projet d'entreprise. C'est une transformation profonde de la manière dont on travaille et du rapport à la vision d'entreprise. En gros, moi, dirigeant, je m'occupe de la stratégie. Le quotidien du travail, je laisse mes équipes manager et manager se débrouiller entre elles pour le faire bien. Donc, il y a un lâcher-prise assez important. Est-ce que tous les directeurs...
Ce qui n'est pas évident pour un patron.
Ben voilà. Dans les PME, c'est vachement mon bébé, ma manière de faire, la seule bonne, avec l'angoisse qui va avec. C'est ma retraite, c'est mon investissement, c'est ma fortune qui peut partir en fumée. Il faut voir que ce n'est pas évident. Et dans des entreprises c'est plus installées, voire institutionnelles, il y a un côté, attends, je représente quelque chose. On m'a confié cette belle maison, j'aimerais la rendre plus belle que je ne l'ai reçue. Il ne faut peut-être pas qu'on joue avec des fondamentaux ou qu'on laisse des ouvriers non qualifiés prendre des décisions de management. Ouais.
Bon, voilà. Donc, y a du coup, j'imagine que c'est plus facile à mettre en place lorsqu'on crée son entreprise. Lorsqu'on est créateur d'entreprise, on se dit « Ok, mon entreprise va partir directement sur la semaine de 4 jours.
Ouais, » Plus tu crées ton entreprise nativement comme ça, plus ça va être sans couture. Avec le piège de raisonner à la place des gens. C'est-à-dire, si je les fais travailler comme ça, ça va passer crème. En vrai, il vaut mieux leur dire et comment tu travailles et comment tu peux le faire évoluer, toi. Il y a un lâcher-prise qui est important. Deuxième élément de la checklist, c'est les collaborateurs eux-mêmes. On l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire « Oh là là là, qu'est-ce que c'est encore que ce truc ?» Ouais, on nous dit qu'on va avoir 4 jours de boulot. En fait, ce qu'il veut, c'est ses 30% de productivité. Donc, si c'est « Tu travailles pendant 4 jours, mais les 3 jours qui restent, je passe mon temps à te harceler de coups de fil pour te rappeler ce que tu dois faire pendant les 4 jours », pas de salisette.
C'est pas hyper bénéfique pour les salariés, là.
Là, je peux dire que la charge mentale, elle va monter en flèche. Or, il y a des patrons qui, croyant bien faire, l'ont fait. Il y a des collègues qui, croyant bien faire, l'ont fait. Oui, Momo, je suis désolé, je sais, aujourd'hui, c'est un jour où tu bosses pas, je suis navré, mais sans toi, on peut pas en sortir. Est-ce que je peux te déranger 5 minutes? Et comme on est sympa, on dit « Ouais, bien sûr, tu peux me déranger 5 minutes. » Et de 5 minutes en 5 minutes, on y passe la moitié de sa journée. Bon, donc ça, il faut mettre des garde-fous managériaux là-dessus en disant « Voilà la liste des gens qui, aujourd'hui, ne doivent être appelés littéralement sous aucun prétexte professionnel. » Bon, si vous les appelez pour prendre un verre, super.
Il faut être ferme, en fait.
Mais faut être... Et là-dessus, attention, parce que les gens ne sont pas pervers. Les gens font ça croyant bien faire. Pour alerter, tiens, tu sais, j'ai eu une info, il y a une réorg qui va arriver. Ou tu sais, machin, ton contrat, tu l'as gagné. Non. Vous ne dérangez pas les gens, même pour des bonnes nouvelles, pendant les jours où ils ne bossent pas. C'est important. Ouais. C'est la clé de voûte du truc. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient flics là-dessus, ce qui n'est pas non plus une position agréable de dire « t'as voulu être gentil, mais t'as eu tort, et moi, je dois te gronder ». Ce n'est pas sympa d'avoir à faire ça à un collègue.
En fait, ça devient la raison d'être de l'entreprise, hein, la semaine de 4 jours.
Raison d'être peut-être pas, mais ça doit entrer dans l'ADN.
Ouais, parce que je le vois, en tout cas, les boîtes qui mettent ça en place se présentent comme étant des entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours. Elles se présentent même comme ça avant même de parler de leur activité, de leur métier. Oui. Ça devient une fierté même pour ces boîtes.
Mais absolument. Mais parce que ce n'était pas facile. On le présente comme voilà, c'est super. Des collaborateurs plus épanouis, plus engagés, plus motivés, plus reposés également. Une entreprise de pointe, moderne, à la pointe de l'innovation manager. Mais en vrai, c'est du sang et de la sueur.
Je sens que tu vas être contacté. Tu vas être contacté par les agences publicitaires, là, je pense.
Non, mais on essaye des dispositifs qui, évidemment, ne marchent pas. On ne comprend pas pourquoi ils ne marchent pas. Donc, on s'entête. Et puis, ça devient des rivalités de personnes. Ouais, tu dis ça parce que c'était mon idée. En fait, tu l'as saboté. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est compliqué, la mise en place. Hein. C'est semé d'embûches. Mais c'est aussi pour ça que quand on se retourne et qu'on dit, on n'est pas arrivé au bout. On ne l'a pas fait dans toute l'entreprise. On ne l'a pas fait dans toutes les fonctions. Mais au moins, tu as vu qu'il n'y a plus de jours d'arrêt maladie ou quasiment plus. Tu as vu que les conflits en permanence entre, je ne sais pas quoi, le marketing et les ingénieurs, ça s'est quand même sérieusement calmé. On a déjà progressé. Donc, si vous voulez, là, on fait une pause de 2 semaines, de 1 mois et demi. On n'est plus là-dessus. On laisse l'expérimentation reposer. Et puis ensuite, on s'y recolle. Voilà. Mais tu vois, c'est une vraie transformation. Et à ce titre, comme l'adolescence, ça ne se fait pas sans souffrance, sans inquiétude, sans angoisse, ouais. sans moment de désespoir. Ce qu'il faut, c'est ouais. malgré tout continuer. C'est là aussi que le collectif nous aide. Attends, toi, tu déprimes, mais nous, on y croit encore. Repose-toi, on continue sans toi, tu nous rejoindras. Et à la fin, ouais. on y arrive.
Il ne faut pas croire que c'est facile. D'entreprise. Il va nous falloir des psys d'entreprise, enfin, c'est peut-être un peu ton rôle, je ne sais pas si c'est le rôle.
On n'a pas de qualification thérapeutique, mais on croit beaucoup effectivement aux sciences humaines et on travaille avec des coachs et on travaille avec des psychologues qui peuvent apporter aux dirigeants, aux représentants du personnel, aux middle managers, aussi le soutien de confiance en soi, de confiance en l'autre, de confiance en ses capacités. Pour dire mais non, attends, regarde les succès que tu as remportés, t'es pas allé au bout, très bien, t'es au kilomètre, je sais pas combien, du marathon, mais regarde tout ce que t'as déjà couru et voilà, t'as pas fini, mais t'es en train, t'as pas rien fait.
Ouais, c'est une belle logique d'accompagnement, en tout cas, c'est hyper intéressant, ça me donne envie de changer de métier presque. Non, c'est super intéressant du coup d'avoir cette logique de travailler au niveau de la direction, donc, tu te penches sur vraiment tes objectifs. Et effectivement, est-ce que la semaine de 4 jours est intéressante ou non pour toi en tant que dirigeant? Et derrière, c'est d'embarquer les collaborateurs. C'est un peu, avoir les deux, en fait.
Il faut faire aussi attention aux représentants du personnel qui parfois se disent « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Attendez, stop. Nous, on existe pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de déséquilibre dans le dialogue. Et là, vous me dites que vous allez, comme un gros tas de chouettes copains, subitement du jour au lendemain, être capable de trouver le machin qui va bien marcher pour l'un et pour l'autre. Mon œil. Donc, il ne faut surtout pas les corneriser. Il faut leur dire, écoute, tu es parfaitement dans ton rôle. Donc oui, viens avec tes soupçons que l'employeur a probablement une idée derrière la tête, avec tes soupçons que les collaborateurs, c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai, et fais-nous bénéficier de ton expérience. Dis-nous, je sais par l'intersyndical que ça n'a pas marché chez tel concurrent ou dans telle implantation, dans telle région, je sais. Ok, très bien. Et on ne dit pas, t'as tort, t'as raison. On est en intelligence collective, donc on dit juste, tiens, c'est marrant, j'avais pas pensé à ce que tu dis. On va regarder. Ils se sont plantés. Merci de nous avoir alertés. On va les contacter. Vous savez pourquoi vous vous êtes plantés? Ah non, vous avez rattrapé le coup, en fait. Vous êtes plantés à un moment. C'est ce que je disais. Il y a eu un obstacle, vous l'avez surmonté. Bon, la façon dont vous l'avez surmonté, ah merde, c'est pas transposable chez nous. Ah bon, tant pis. Mais au moins, on sait que les gens peuvent surmonter.
Il y a une discussion, un échange. Au moins, tu les braques pas, quoi. Mais j'imagine que les organisations représentatives du personnel sont plutôt favorables à la mise en place de cette semaine de 4 jours. Enfin, c'est un peu le...
Pas toujours, parce que justement, le côté très à la carte, très expérimental, très test and learn, si tu me permets de jargonner, etc. Ils disent, le temps qu'on va y passer pendant ce temps-là, on va se fatiguer. Ça va être toujours les mêmes chouchous de la maîtresse qui vont avoir les idées qu'on va estimer bonnes, etc. Donc là aussi, il y a tout un travail à faire de confiance pour que tout le monde se dise, attendez, dans la mesure où c'est un truc gagnant-gagnant, soit on va tous gagner quelque chose de différent, soit on va tous perdre au moins l'opportunité d'avoir gagné ça. Donc, est-ce qu'on peut, 2 minutes, arrêter d'être en mode « c'est mon domaine d'excellence, tu sais pas, tais-toi, laisse-moi parler », et être plus en mode « ça, c'est les trucs sur lesquels je sais que je sais ». Donc là-dessus, je vous les pose, a priori, c'est fiable, j'ai fait mon boulot correctement. Le reste, je vous fais confiance. Donc, je ne discute pas, je peux poser des questions de compréhension, mais je n'essaye pas d'avoir raison, parce que c'est pas mon domaine. Donc, toi, ton domaine, c'est la représentation du personnel, le droit du travail, les prud'hommes, le machin. Ok, là-dessus, c'est toi l'expert. Donc, là-dessus, c'est toi qu'on écoute. Sur le sujet technique, c'est moi. Sur le sujet numérique, c'est lui. Sur le sujet psychologique, c'est elle. Je ne sais pas. Mais on s'écoute les uns les autres. Et si on part sur ces principes d'intelligence collective, on devrait y arriver. En tout cas, les entreprises, beaucoup d'entreprises ont réussi. C'est aussi ça qui est satisfaisant, c'est cet effet de masse. C'est-à-dire, ils ne sont pas tous trompés, ils ne sont pas tous tombés dans un piège.
Ouais. Puis la plupart des boîtes qui s'y sont mises ont réussi, a priori. Mais oui. En tout cas, les retours d'expérience sont plutôt positifs. Alors tout à l'heure, tu as effleuré du doigt le sujet du droit du travail. Est-ce que le droit du travail n'est pas justement trop contraignant? On sait que c'est quand même une particularité française, le code du travail. On sait que nos voisins adoptent la semaine de 4 jours, ils sont hyper friands de ce truc-là. Nous, est-ce qu'arrive un moment, ça ne va pas être problématique justement, ce droit du travail qui n'est pas ultra souple, il faut le dire?
Il n'est pas ultra souple sur l'entrée et la sortie. Il n'est pas ultra souple sur les qualifications, les corps grades, les machins. Sur l'organisation du travail, modulo quelques éléments que j'ai évoqués tout à l'heure de durée continue du travail, de temps de repos, de minimum de temps entre deux temps de repos, etc. Il n'est pas si contraignant que ça. En tout cas, on n'a pas vu d'expérience dans le monde... Europe de l'Ouest, on va dire Union européenne, on n'a pas vu d'exemple où ça a chopé sur le droit du travail. y compris en France.
Ouais, d'accord.
Ou chez les Scandinaves, okay, c'est assez gratiné aussi. Il y a, eu parfois des négociations, des accords d'entreprise qui ont dû être signés, etc. Parce que ça venait, par contre, percuter l'accord sur la réduction du temps de travail ou des choses comme ça, mais qui sont des accords pas d'ordre public, qui sont internes à l'entreprise ou internes à la branche. Mais on n'a pas vu d'impératif bloquant.
Ok, ça marche. Alors, j'aime bien, moi, les petites questions aussi un peu anecdotes. Là, on arrive à la fin de cet enregistrement. Franchement, c'est passionnant. La semaine de 4 jours, je pourrais en parler pendant au moins 4 jours déjà. mais du coup, est-ce que tu as des exemples, des anecdotes un peu vécues, sans forcément citer l'entreprise, hein, si tu n'as pas envie d'en citer, aucun problème, mais des mises en place, justement, de semaines de 4 jours dans certaines boîtes avec, je sais pas moi, des salariés particulièrement satisfaits qui ont remercié leur employeur, des cas un peu particuliers aussi de père ou de mère de famille qui ont remercié, je sais pas moi, leur patron justement d'avoir un peu plus de temps pour eux. Je sais pas s'il y a des anecdotes comme ça. Moi, j'avoue, j'aime bien les petites anecdotes.
Il y a un sujet qui m'intéresse parce qu'on a tendance à le faire passer sous le tapis. Il y a déjà des gens qui bossent 4 jours. Il y a des gens qui sont mis à ce qu'on appelle 4/5e. Souvent des mamans, parce que malheureusement on est dans un modèle où c'est les mamans qui s'occupent des enfants. Bon, super. Faudrait aussi travailler un peu patriarcat à cette occasion-là. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, ces gens-là, ils sont à 4/5e de temps et 4/5e de salaire. Donc quand on leur dit subitement tout le monde va être à 4/5e de temps et 5/5e de salaire, ils disent vous êtes mignon, mais j'ai un peu le sentiment de m'être fait enfler dans cette affaire. Donc là, il y a eu des discussions sur ouais, alors d'accord, mais alors pour rétablir, ça veut dire qu'il faudrait que tu bosses 47 minutes de moins chaque jour, mais alors avec peut-être un rattrapage des années bissextiles du coup, parce que bon. Et puis alors si jamais c'est des années où le 1er et le 8 mai tombent des dimanches, alors forcément tu as moins de jours de repos mécaniquement. Bon, puis finalement, les gens ont dit, OK, bon, on va pas s'en sortir parce que pareil, on va vouloir faire des calculs mathématiques très fins qui ne reflètent pas la réalité du ressenti des collaborateurs. Donc, on va faire un truc beaucoup plus simple. OK, donc tout le monde est à la semaine de 4 jours. Mais alors, il y a des gens qui, parce qu'ils étaient pionniers, ont accepté d'être payés un peu moins. Ça veut dire qu'eux, ils vont être au moins de 15 jours, en fait.
Ouais.
Tu vois, tu décales. Okay. Tu décales de la semaine au mois. Et donc, tout le monde est sur une semaine de 4 jours, mais il y a des gens qui ne sont pas sur la même durée de mois et ceux-là sont un peu moins payés.
Ouais, donc tu as vraiment des cas particuliers. Ça va nécessiter vraiment pas mal d'adaptation.
Ouais.
Hein. Oui, Est-ce que c'est le rôle des RH, ça, justement, que de faire ça parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à travailler là-dessus?
À nouveau, c'est un travail collectif. C'est un projet d'entreprise, donc ça doit être absolument sponsorisé, poussé par la direction générale. C'est une envie que mon entreprise, elle soit comme ça. Ensuite, chacun va jouer son rôle. Les financiers, ils vont regarder les indicateurs de perf et ils vont dire, bon, on l'a la produc ou on ne l'a pas. Les RH vont apporter justement leur connaissance, notamment du droit du travail. Ils disent, faites gaffe les mecs, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais alors, attends, déjà, on bosse 4 jours. Par ailleurs, on a un accord de télétravail qui dit qu'il y a 3 jours où on peut télétravailler. Les gens qui se voient physiquement un jour par semaine, il est où le collectif ? Comment on compense ça? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'est-ce qu'on trouve comme dispositif. Nous, chez Blooming Partners, on utilise le métavers, par exemple, pour trouver des espaces dans lesquels on se retrouve. Et pas forcément on se retrouve pour travailler, mais on se retrouve pendant les heures ouvrables, bon, etc. Les middle managers ne doivent pas dicter comment leur équipe doit travailler, mais ils doivent apporter leur seniorité. Moi, je sais que dans une autre boîte où j'étais, parce que je suis un peu plus vieux, sinon je ne serais pas chef, c'était comme ci, comme ça. Ou, attendez, moi, en tant que chef, vous me compliquez la vie si vous vous organisez comme ça, parce que du coup, je ne suis plus informé de rien. Vous faites sans moi, d'une certaine façon. Or, j'ai des comptes à rendre aux clients dont je suis responsable de compte, etc. Donc, j'ai besoin de circuits d'informations différents. Voilà. Que chacun exprime ses irritants, ses espoirs, et qu'on trouve par consentement, pas par consensus. Le consensus, c'est « ouais, je fais comme ça, je m'en fous ». Le consentement, c'est « j'ai fait attention à ce que rien de ce que je fais ne te nuise ». Beaucoup plus engageant, mais c'est beaucoup plus long à mettre en place. Par consentement, on va trouver une façon que chacun dise « ouais, ok, ça c'est un mode de fonctionnement qui ne me nuit pas et qui, personne ne me dit que ça lui nuit. Donc, j'estime que c'est un bon mode de fonctionnement, je signe ». Et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Ce n'est pas un projet RH, c'est un projet d'entreprise où les RH ont un rôle à jouer comme dans toute entreprise.
Je pense que ça va les rassurer, les RH qui nous écoutent. On a beaucoup hein, de RH qui nous écoutent. On les salue d'ailleurs. Donc, merci Thomas pour ce propos rassurant vis-à-vis de notre public RH qui nous écoute aujourd'hui. Si on devait faire une petite conclusion, un petit résumé un peu, la thèse et l'antithèse, le positif et les écueils à éviter pour mettre en place cette semaine de 4 jours, qu'est-ce que ce serait, Thomas?
Bah, plus j'y réfléchis, plus je me dis que, indépendamment de toute considération d'entreprise, c'est probablement un progrès social qui s'inscrit complètement dans tout ce qui se passe depuis l'an 2008 en matière d'évolution de la société. Plus inclusive, plus poreuse, plus solidaire, etc. Je pense que c'est quelque chose qui va faire souche, et pas que dans l'entreprise. On va penser comme ça, je dois cloisonner davantage mes différentes activités pour moins me disperser. Voilà les jours où je travaille, voilà les moments de la journée où je travaille, voilà ceux où je médite, voilà ceux où je crée, voilà ceux où je m'engage, voilà ceux où je ne sais pas comment dire ça en français, je care, je m'occupe de quelqu'un, de quelque chose, etc., etc. C'est mieux pour eux tous, pour ceux qui en bénéficient de mon effort, et c'est mieux pour ma santé mentale. Et il se trouve que la façon dont les entreprises l'ont mise en œuvre est aussi un levier de rentabilité pour les entreprises qui en ont bien besoin dans un monde post-Covid, avec la guerre en Europe, avec le réchauffement climatique, etc. C'est une façon de créer de la richesse sans voler de l'argent à quiconque. Donc ça, pour moi, c'est la thèse. C'est okay. Réellement porteur d'espoir, motorisé, bien sûr, par des révolutions technologiques, plein de choses sur la pensée managériale, sur les sciences humaines, etc. Hein, c'est quand même assis sur des choses solides. Mais sans effort, sans investissement mécaniste, des humains réussissent à faire quelque chose qui font que les humains vont mieux et l'économie aussi simultanément. Ça, c'est la thèse. Ouais. L'antithèse, c'est
porteur d'espoir.
Voilà. L'antithèse, c'est comme disait Goethe, ce n'est qu'à l'issue des pires calvaires que l'humanité a pu dresser les pierres blanches de ses victoires les plus éclatantes. Donc, c'est un travail...
C'est porteur d'espoir aussi, hein, du coup.
Oui, ça prend des mois, il y a des périodes de découragement, il y a des conflits latents qui vont apparaître à ce moment-là, dont ça va être le révélateur. Il va falloir les gérer comme on gère tout conflit, comme on gère toute situation d'emprise dans les entreprises. Voilà. Ça va... Mon co-auteur Francis Boyer de Innovation Managériale, qui est un type brillant et qui a réfléchi à ça depuis des années, a une très belle métaphore. Il dit, c'est comme un déménagement. Ça va être l'occasion de trouver sous l'armoire qu'on n'a jamais déplacée les vieilles lettres d'amour qu'on avait oubliées. Et alors maintenant, quand on les relit, on dit, mon Dieu, quoi. C'est l'occasion de tout mettre dans des petites boîtes un peu bien rangées, avec enfin tous les DVD dans la boîte de DVD qu'on gardera plus jamais parce qu'on a Netflix, les vieilles chaussettes dans la boîte de vieilles chaussettes, etc. Et plus des chaussettes qui calent les DVD entre eux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est aussi un deuil, un déménagement, on le sait. Les trois choses les plus perturbantes qui puissent vous arriver, c'est une rupture sentimentale, un décès ou un déménagement. C'est ça qui vous fait passer par la courbe de Kubler-Ross, etc. Donc c'est exactement ça, la semaine de 4 jours. À la fin, vous serez énormément départi du poids du passé, vous vous serez allégé, vous aurez bien rangé les choses dans votre entreprise, dans la façon dont vous travaillez, mais en contrepartie, vous aurez dû faire le deuil de beaucoup de choses. Donc, le résultat est porteur d'espoir. Évidemment, l'effort à faire, il est pas neutre. Mesurez-le. Mesurez-le dans le pas de temps que vous vous imposez, le rythme de marche que vous vous imposez. Ne perdez pas de gens en route, n'épuisez pas de gens. Et vous allez tous y arriver, tous ensemble.
Ouais. On pourrait résumer ça peut-être par la notion de courage, du coup.
D'audace, si j'ai envie de dire, plus que courage. Courage, d'audace. C'est quand tu es confronté à quelque chose qui te fait peur et où tu dis, j'y vais quand même parce que le jeu en vaut la chandelle. Là, c'est plus de l'audace, du pourquoi pas, du essayons, du on verra bien. Et même si on n'arrive pas au bout, même si on ne fait pas la semaine de 4 jours pour tous ou pas du tout ou quoi que ce soit, le chemin nous aura vraisemblablement appris plein de choses sur nous-mêmes, sur pourquoi on n'est pas encore mûr, mais on le sera peut-être dans un an, dans deux ans, dans quatre ans, voilà, vous aurez progressé. Moi, ma recommandation, c'est réfléchissez-y, vous ne lancez pas tout de suite, réfléchissez-y, voyez si vous y croyez ou pas, si vous en avez envie ou pas, vous ne forcez pas, si vous en avez envie, tentez le coup, et puis ça marche, ça ne marche pas, on verra bien.
Ok. Bah écoute, top hein, Thomas, merci beaucoup. Donc la semaine de 4 jours, c'est un projet qui est audacieux, hein. Voilà, c'est ce que je vais retenir de notre échange et qui apporte beaucoup, beaucoup de bonnes choses aussi bien au patron, à l'employeur qu'aux salariés. Un grand merci Thomas pour tous ces éclairages hyper précieux. Franchement, ce sujet est passionnant et voilà, je pense que je vais réécouter en boucle cet enregistrement.
Merci Guillaume de tes questions et de ta bienveillance.
Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail en collaboration avec HULTEF Corporate Education. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant.